Écoutez, Radio France Internationale, merci. Il est maintenant 18h10 à Paris.
Spotkania europejskie.
Cruzamento da Europa.
Rozkrucia Europy.
Stavrodromi tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bonsoir, bienvenue au Carrefour de l'Europe. Depuis 2008, la crise financière puis celle des dettes souveraines ont durablement secoué l'Europe. Rares sont les pays à avoir été épargnés, mais certains ont réussi à s'extraire de la crise plus rapidement que d'autres. La crise est-elle une fatalité alors que les soubresauts des bourses et la fragilité hypothétique de quelques banques européennes font craindre un nouveau cataclysme? Faut-il en passer par les fourches codines de la Troïka pour sortir la tête de l'eau? L'austérité est-elle le remède miracle ou le poison absolu? Comment sortir de la crise en évitant d'y retomber? Nous allons l'évoquer tout au long de ce Carrefour de l'Europe en scrutant plus particulièrement quatre pays qui ont été particulièrement touchés, la Grèce, le Portugal, la Lettonie et l'Irlande. Quatre histoires européennes. Bonjour Robert Rochefort.
Bonjour.
Vous êtes à la fois député européen Modem, vous siégez sur le banc de l'ADLE, c'est-à-dire les démocrates et les libéraux. Vous êtes plutôt libéral ou plutôt démocrate?
Plutôt démocrate, mais pour faire simple, c'est le groupe centriste.
C'est le groupe centriste. Hein. Et vous êtes en même temps économiste de formation, c'est votre profession.
Ça fait plus de 30 ans, oui.
À Lisbonne, nous rejoignons Marilyn Darcy, que nos auditeurs connaissent bien, puisque vous êtes la correspondante de RFI au Portugal. Bonjour, bon dia, botard, Marilyn.
Bonjour et bon dia.
Vous êtes à l'origine d'un livre au titre évocateur, Visage de la crise, sous-titré « Nous, gens du Sud, pauvres et feignants » chez Buchet-Chastel. Car la crise, ce n'est pas seulement des chiffres et des statistiques, c'est aussi des gens et donc des visages. Ce livre de témoignages, vous l'avez écrit en compagnie de consoeurs, correspondantes en Italie, en Espagne et en Grèce. Et à Athènes, justement, nous rejoignons Angélique Kournis. Bonjour, Kalimera, Kalispera.
Kalimera, bonjour.
Et enfin, nous parlerons de la Lettonie, un des trois pays baltes, avec Una Bergman. Bonjour, Labdien.
Bonjour, Labdien.
Vous êtes lettonne, enseignante et doctorante. La Lettonie, c'est évidemment un pays que l'on connaît beaucoup moins bien que la Grèce ou le Portugal. Robert Rochefort, les crises n'ont pas toutes la même origine. Si on regarde, par exemple, la situation de départ au Portugal et en Grèce.
Pas peut-être la même origine, mais elles ont la même histoire ensuite. C'est-à-dire, c'est une crise qui n'est pas une crise grecque, qui n'est pas une crise uniquement portugaise, c'est une crise générale, qui est une crise mondiale et une crise de l'Europe. D'ailleurs, les remèdes qu'on a proposés à la Grèce et au Portugal sont assez proches.
J'allais y venir, bien sûr.
C'est évidemment ce qu'on appelle la rigueur. Pour faire simple et pour vous donner tout de suite mon jugement, je ne pense pas qu'on ait eu tort d'imposer ce plan de rigueur. Je pense par contre qu'on n'a fait qu'un tiers du chemin. Il aurait fallu faire trois choses. D'une part, avoir une rigueur. D'autre part, avoir ce qu'on appelle une mutualisation des dettes, de façon à ce que les dettes de ces pays ne soient plus avec des taux d'intérêt extrêmement élevés.
On va en reparler.
Et troisièmement, et c'est peut-être le plus important, il fallait un plan unique de réinvestissement et de relance de ces économies qui n'était pas du tout contradictoire avec une politique de rigueur. Pour faire simple, on n'a quasiment pas fait le troisième point. On a fait un petit peu le deuxième point, mais on n'est pas allé jusqu'au bout du chemin. Et vous savez qu'aujourd'hui, les dettes souveraines, à la fois du Portugal comme de la Grèce, sont en train de remonter en taux d'intérêt. Et on a finalement eu simplement les pleurs et les larmes et les souffrances du plan de rigueur. Donc je pense que c'est injuste.
Alors, en Irlande et en Lettonie, c'était tout de même pas le même départ. En Irlande, quand même, la crise a une autre origine.
Alors, il faut bien comprendre que les quatre pays que vous mettez en évidence sont des petits pays. C'est pas péjoratif de ma part de le dire ainsi.
Mais quand on est
un petit pays, on peut avoir des histoires qui soient des histoires de spécialisation. Donc, l'Irlande avait fait une spécialisation, notamment sur ces questions de fiscalité, et puis s'est cassé la figure de façon extrêmement brutale. Quant à la Lettonie, elle fait partie de ces pays qui ont la chance d'être dans une époque de rattrapage de développement et donc de bénéficier à la fois des fonds structurels européens, parce que l'Europe sait faire ça. L'Europe sait donner de l'argent aux régions ou aux pays lorsqu'il s'agit de leur permettre de rattraper le train de la moyenne et puis aussi peut-être d'être un pays qui avait un retard de développement économique et industriel qui fait que, d'une certaine façon, au début, ça va mieux. C'est plus facile, comment dire, d'y arriver. Ça n'empêche pas qu'il y a eu des demandes exigeantes préalablement à l'entrée dans la zone euro, qui est récente, puisque l'entrée dans la zone euro, c'est il y a 2 ans. Mais vous voyez, chaque fois, il y a un tronc commun de situation. Ça n'empêche pas d'avoir des particularités. Et on en parlera peut-être, parce que c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup en tant qu'eurodéputé. C'est quelque chose qu'on n'évoque pas vraiment beaucoup. On fait croire que l'Europe est égalitaire et équitable à l'égard de tous les pays qui la composent. Or, ce n'est pas vrai. L'Europe fait un traitement différent entre les petits pays et les grands pays. Et il est clair que les grands pays ont plus de tolérance et Bruxelles est plus tolérante à leur égard que les petits pays à l'égard desquels on appuie plus sur la sévérité.
Pour simplifier, plus tolérante avec Berlin qu'avec Athènes. Alors, quelles que soient les origines de cette crise, elles ont touché surtout et peut-être d'abord les classes moyennes. Marlene Darcy à Lisbonne et Angélique Coronis à Athènes, vous avez raconté dans votre livre des vies brisées par la crise, et notamment celle de Seu et d'Irini. L'une est portugaise, l'autre grecque. Leur point commun, c'est qu'elles sont l'une et l'autre des battantes. Marlene Darcy, quelques mots sur Seu à Lisbonne.
Oui, ces personnages sont débattants, heureusement, hein, parce que sinon, je crois que la crise aurait gagné sur tous les tableaux. La classe moyenne dont on parle dans le livre, c'est effectivement des gens comme Seu, comme Irini, comme les autres personnages, les autres visages de notre livre. Ce sont des gens qui ont été rattrapés ou attrapés tout simplement par la crise, pris au piège de quelque chose qu'ils ne s'y attendaient absolument pas. Et c'est ça que nous avons voulu mettre en évidence, parce que c'est complètement oublié. C'est facile de voir, entre guillemets, hein, la crise, les effets de la crise, la paupérisation et des choses comme ça. Mais il y a toute une frange de ces populations qui s'est retrouvée complètement dans un maelstrom de difficultés impensables, inimaginables, et surtout pas du tout projetées dans cette idée de l'Europe qu'on avait, et l'eurodéputé qui est parmi nous l'évoquait, cette Europe solidaire, cette Europe qui pense à tous les niveaux et pour tous les pays. Et ça, c'est ce qu'on a voulu mettre en avant dans le livre.
Angélique Coronis, vous expliquez que Irini, c'est elle qui vous a fait percevoir ce que voulait dire la crise en réalité pour les citoyens grecs.
Bah oui, parce que moi, en tant que journaliste, j'allais toujours voir les députés, les sociologues, les politologues, j'écoutais ce que disait le gouvernement, l'opposition, je descendais dans les manifestations, mais le quotidien vraiment vécu, ça c'était autre chose. Et ça, c'est vraiment Irini qui me l'a fait découvrir. Quand vous avez une femme battante comme elle, belle, qui dit « bon, ben, je voulais faire un deuxième enfant, je le ferai pas, et quand la crise sera finie, si je suis trop vieille pour enfanter, ben, j'adopterai », Vous commencez à réfléchir. Quand elle vous explique que pendant 3 jours, elle a pleuré après le second mémorandum d'austérité, non pas parce que son salaire était divisé en deux, non pas parce que elle disait au revoir à une façon de vivre, mais parce qu'elle estimait que sa vie lui échappait. Elle votait, ce qu'elle me disait, ce qu'elle me dit toujours d'ailleurs, c'est qu'on vote, et ce qu'on vote, eh bien, on ne le retrouve ni au gouvernement, ni au quotidien. Et il faut savoir qu'en Grèce, comme en Italie, comme au Portugal, les gens votaient, et puis finalement, la décision était que le parti qui gagnait ne pouvait pas appliquer la politique pour laquelle il a été élu. Et ça, ce que m'a expliqué Irini, c'est qu'elle avait l'impression que non seulement on lui cassait son quotidien parce qu'elle perdait son salaire, son avenir, il fallait qu'elle repense tous ses plans, qu'à 35 ans, elle devait encore dépendre de ses parents pour acheter de la viande et du poisson, ce qu'elle ne peut plus acheter, mais qu'en plus, eh bien, elle se retrouvait privée de ses droits civiques de citoyenne, c'est-à-dire qu'elle vote ou qu'elle vote pas, ça changeait pas, puisque la politique était décidée à Bruxelles.
Est-ce que ça ne veut pas dire aussi, Angélique Coronis, que les Grecs ont vécu avec une certaine illusion, une certaine innocence?
C'est un peu la question que moi je me suis posée, et je l'ai posée à mes deux personnages, tant à Tolly qu'à Irini, et eux, ce qu'ils m'ont répondu, mais ils ont dit, mais attendez, nous, on avait un salaire. Irini, par exemple, elle gagnait 1700 euros par mois, elle était prof, elle a pris un emprunt basé sur ce salaire-là, elle n'a pas pris un emprunt qui ne pouvait pas lui permettre de vivre. Son mari était journaliste, maintenant il est au chômage. On lui propose des travaux d'esclave, travailler 12 heures par jour, 6 jours sur 7, sans sécurité sociale, à 5 euros de l'heure. Et encore 5 euros, c'est quand il les a. Donc elle dit, mais moi j'ai joué le jeu, j'ai construit ma vie sur ce... bien sûr qu'il y a des gens qui ont vécu au-dessus de leurs moyens, mais ce n'est pas eux qui payent cette crise. Il faut quand même voir ce que c'est cette crise en Grèce. 30% de la population n'a pas accès aux soins. 30% de la population est sous le seuil de pauvreté. Et quand on n'a pas accès aux soins et qu'on est dans un pays comme la France, où on peut se faire soigner gratuitement parce qu'on peut produire, on n'a pas d'argent, il y a des tas d'aides sociales en France, mais ne pas pouvoir se soigner en Grèce, eh bien c'est tout simplement aller directement à la mort. On occupe des gens en Grèce parce qu'on ne peut pas leur détecter leur taux de glycémie. C'est ça, on fait plus de contrôle prénataux. Il y a la mortalité dépasse la natalité. C'est ça, en Grèce, la crise. Et c'est ce que j'ai vu avec Irini, au quotidien.
Una Bergman, comment s'est manifestée cette crise? Quel virage a-t-elle pris en Lettonie?
En fait, en Lettonie, c'était assez particulier. Je trouve aussi assez intéressant. Donc, en 2008, la crise est arrivée aussi en Lettonie, comme partout en Europe. Et début 2009, la population s'est rendue compte qu'il y a quelque chose de très grave qui arrive. Et donc, à l'époque, on avait un gouvernement qui était soupçonné très fortement de corruption et d'une influence des oligarques. Donc, en ce moment, il y avait, au moment d'une crise grave économique, il y avait aussi un rejet presque complet de ce gouvernement. Et donc, début janvier, il y avait une manifestation qui a tourné en émeute, ce qui est très rare en Lettonie.
Oui, les Lettons sont plutôt des gens calmes.
Oui, exactement. Donc, on n'a pas vraiment une habitude de manifester ou de, voilà. Donc, si on a manifesté à la fin des années 80 pour se débarrasser de l'Union soviétique, mais ensuite, sous l'indépendance, c'est pas une habitude très courante. Donc, en janvier, donc, il y avait la manifestation. En février, le gouvernement a démissionné. Et donc, il y avait un nouveau gouvernement qui est arrivé au pouvoir et qui était formé des anciens partis, mais aussi des partis de l'opposition, et des partis qui, en fait, dénonçaient la corruption. Donc, dans un premier temps, en fait, on a juste entendu parler les hommes, les femmes politiques d'un problème grave. La banque, la plus importante, en banque privée, qui était nationalisée. Mais donc, les vraies conséquences, c'est vrai qu'il y avait des gens qui étaient licenciés tout de suite, mais les vraies conséquences des crises, on a commencé à ressentir au moment où les mesures d'austérité étaient mises en place. Et là, donc, effectivement, il y avait un chômage de plus de 20%, les PIB qui s'est rétréci de 10%, des gens qui étaient licenciés, donc à peu près 25% des hommes et des femmes qui travaillaient pour l'État étaient licenciés, les salaires étaient réduits, et donc une partie de la population s'est trouvée au chômage. Donc, mais ce qui est intéressant dans les cas lettons, que les mesures d'austérité étaient soutenues par la population. Donc, le gouvernement qui a mis en place et qui était dirigé donc par Dombrovskis, qui est maintenant le vice-président des commissions européennes, ce gouvernement, en fait, a survécu à deux élections. Et la partie, en fait, elle a gagné à deux fois. Ils ont eu la possibilité de réformer le gouvernement.
Ce qui veut dire que les Lettons se sont dit, c'est difficile, mais il n'y a pas d'autre solution. Il faut en passer par là. C'était l'état d'esprit des Lettons à l'époque.
Oui, il y a, en fait, plusieurs raisons à ces soutiens. Donc, d'abord, comme vous dites, c'était la seule solution. En plus, faut savoir en fait que à l'époque, les autres partis politiques, même les partis qui s'opposaient aux mesures d'austérité, ils n'avaient pas vraiment un projet à proposer à leur place.
Il n'y avait pas de plan B.
Voilà. Donc, ça paraissait comme la seule solution. Après, il y a d'autres raisons historiques et politiques qui ont fait que, et en fait, il y avait cet soutien.
Robert Rochefort, peu ou prou, et vous le disiez, vous l'avez déjà un peu exprimé, le remède proposé par la Commission européenne, la BCE et ou le FMI, ça dépend, a été à peu près le même en échange de prêts pour passer cette phase difficile, des coupes dans les budgets d'État, des réductions dans les services sociaux et un rabotage des retraites. Alors, il y a des nuances dans les différents plans appliqués dans ces différents pays, mais ça a été toujours à peu près le même remède. Est-ce qu'il pouvait en être autrement ?
On peut pas peut-être partir de l'exemple de la Lettonie pour répondre à votre question. Si les Lettons ont accepté, c'est parce que, à la différence des Portugais et des Grecs, par exemple, ils avaient absolument envie de rentrer dans la zone euro et ils n'étaient pas encore dans la zone euro. Et en plus du fait de traiter les conséquences immédiates de la crise, ça faisait partie des conditions imposées pour rentrer dans la zone euro. Et si on part de cette idée-là, et du coup d'ailleurs, la Lettonie ayant eu un plan très sévère dès la fin de la première décennie de notre siècle, elle a redécollé plus vite. L'économie lettonne a redécollé, je ne sais plus si c'est en 2012 ou en 2013, mais enfin, elle a redécollé, comment dire, beaucoup plus vite. Alors là, du coup, on aborde une question qui est une question assez fondamentale. Qu'est-ce que c'est l'Europe? Et en particulier par rapport au Portugal et par rapport à la Grèce. Oui, l'Europe est un abandon de souveraineté. Ce serait absurde de ne pas le reconnaître. Et je crois que le hiatus qui s'est produit en particulier au niveau du Portugal et au niveau de la Grèce, c'est que les chefs d'État et de gouvernement n'ont plus effectivement, à partir du moment où ils sont rentrés dans l'Europe et dans la zone euro, n'ont plus l'autonomie qu'ils pouvaient penser avoir et qu'ils ont fait miroiter à leur peuple. Et c'est toute l'histoire de Tsipras, finalement. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est très drôle parce que, peut-être que notre journaliste va me contredire, mais ce que je retiens, moi, de Tsipras, c'est que c'est un cas très particulier sur le plan politique parce qu'il dit à son peuple « Ce que l'on nous impose n'est pas bon, je sais que c'est pas bon, mais je n'ai pas le pouvoir de faire en sorte que ce soit une autre politique qui s'applique. Moyennant quoi, ce que j'essaye de faire, c'est de, bon, à la marge, d'essayer de jouer, par exemple, de faire en sorte que, un certain nombre de cas, je joue un peu plus la protection des plus faibles et je préserve un petit peu leur situation, ou je joue plutôt l'augmentation des cotisations que la baisse des prestations sur le plan actuellement qui est en négociation sur les retraites. Mais le vrai sujet, il est là. La vraie ambiguïté de l'Europe, elle est là. C'est, et probablement par rapport aux pays comme le Portugal et comme la Grèce, c'est que ils sont rentrés dans une dynamique dont ils ont quand même extrêmement bénéficié. Il faut quand même être clair. L'Europe a été un peu quelque chose qui était un bouclier de protection pendant quelques années qui ne faisait pas voir l'évolution du monde, ce qui se passait ailleurs. Parce que le problème, c'est ce qui se passe ailleurs. Et quand la crise est arrivée et quand les politiques de rigueur se sont imposées, effectivement, ces peuples se sont retrouvés un peu avec leur roi qui était nu, leur roi à eux, c'est-à-dire leur premier ministre, qui se sont retrouvés nus par rapport à la situation. Et c'est ça la grande ambiguïté. Alors, du coup, ça pose deux questions. C'est quelles sont malgré tout les marges de manœuvre et qu'est-ce qui reste de souveraineté nationale lorsqu'on est dans un pays comme c'est dans un pays qui est dans la zone euro ou même en Angleterre, si on pense à la question du Brexit et du référendum en Grande-Bretagne. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est comment ces pays-là, comme d'autres, participent ensuite de façon constructive à la définition d'une nouvelle politique. Mais cette nouvelle politique, elle est la politique globale d'un ensemble de pays unis ensemble, en particulier parce qu'ils partagent la même monnaie.
Alors, on va donner à Angélique Cournis et à Méryline Darcy la parole dans la deuxième partie de l'émission, mais Robert Rochefort, est-ce que on aurait traité de la même façon, vraiment en quelques mots, l'Allemagne et la Grèce?
Non. Je vais vous raconter une histoire personnelle. Depuis que je suis député européen, je passe les fêtes de fin d'année dans un pays différent de l'Union européenne. Donc j'ai passé un 31 décembre à Athènes, et j'ai passé un 31 décembre à Lisbonne. Et en particulier, quand j'étais à Lisbonne, j'ai voulu essayer de comprendre ce qu'avait été Monsieur Barroso, qui a quand même été président de la Commission européenne pendant deux mandats, pendant 10 ans.
Et Premier ministre.
Et non, il était Premier ministre dans son pays, je voulais dire en tant que président de la Commission européenne. Et j'ai compris, quand on est depuis Athènes ou quand on est depuis Lisbonne, je crois qu'on a le sentiment qu'effectivement on est un pays trop petit pour influencer la politique européenne en tant que telle. Et même quand on devient président de la Commission alors qu'on vient dans ce pays un tout petit peu plus petit, on n'arrive pas vraiment à imposer quelque chose. Et je dis ça indépendamment de la couleur politique de Monsieur Barroso, que je connais, même avec la fluctuation de ses couleurs politiques.
Oui, de l'extrême gauche à une droite au long de sa vie. Très conservatrice.
Donc, pour le dire autrement, oui, il est clair que puisqu'aujourd'hui nous continuons à être, et c'est ça la grande habitude de l'Europe, nous continuons à être une juxtaposition de pays qui croient encore à leur pleine, je dirais, ou partiellement forte souveraineté nationale, et que l'Europe est à moitié construite sur un peu l'abandon de cette souveraineté nationale, quand on a une grosse souveraineté nationale par rapport au poids qui est globalement celui de l'Europe, c'est vrai qu'on arrive à imposer des choses. L'Allemagne a réussi à imposer d'être en dehors des clous du pacte budgétaire un certain temps. La France finalement réussit à avoir,
de la même façon,
depuis deux plans, des plans successifs de compromis. Pourquoi? Parce que quand vous êtes l'Allemagne et la France réunies, vous faites 50% du PIB de la zone euro, et que quelque part on peut pas vous imposer la même chose que ce qu'on peut imposer à des pays qui font 1%, 2%, 3% ou 4% simplement du poids économique de la zone euro.
En Europe, tous les pays sont égaux, mais certains le sont plus que d'autres. On va faire une pause donc sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, le temps de prendre connaissance des dernières.
En ce moment, Caen affronte Rennes à un quart d'heure de la fin. Caen mène 1-0. Vous écoutez RFI, merci. Il est 18h33 à Paris.
Spotkania europejskie.
Cruzamento da Europa.
Rozkrucia Europy.
Σταυροδρόμι της Ευρώπης.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Rebonjour, bonsoir, Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Depuis 2008, la crise financière puis celle des dettes souveraines ont durablement secoué l'Europe. Rares sont les pays à avoir été épargnés, mais certains ont réussi à s'extraire de la crise plus rapidement que d'autres. La crise est-elle une fatalité alors que les soubresauts des bourses et la fragilité hypothétique de quelques banques européennes font craindre un nouveau cataclysme? Faut-il en passer par les fourches codines de la Troïka pour sortir la tête de l'eau? L'austérité est-elle le remède miracle ou le poison absolu? Comment sortir de la crise en évitant d'y retourner? Nous scrutons plus particulièrement quatre pays qui ont été particulièrement touchés, la Grèce, le Portugal, la Lettonie, l'Irlande, quatre histoires européennes. Je vous représente rapidement les invités qui ont bien voulu prendre place autour des micros de Carrefour de l'Europe. Robert Rochefort, député européen Modem et économiste de formation. Marilyn Darcy, correspondante de RFI Portugal en ligne de Lisbonne et co-auteur de Visage de la crise chez Buchet-Chastel. Co-auteur avec Angélique Kourounis, elle aussi journaliste en ligne d'Athènes. Et Una Bergman, lettonne, enseignante et doctorante. Sortant de l'austérité, a priori en Grèce, pas vraiment. En échange d'un troisième prêt de 86 milliards d'euros, les créanciers de la Grèce ont exigé du gouvernement d'Alexis Tsipras, entre autres, une nouvelle réforme des retraites. Les Grecs devront travailler plus longtemps, 67 ans, cotiser davantage et au final toucher des pensions plus modestes. Et cette réforme a du mal à passer, notamment auprès des agriculteurs qui ont manifesté à Athènes la semaine dernière. Maria Afonso.
Devant le ministère de l'Agriculture à Athènes, un groupe de fermiers venus de Crète a laissé exploser sa colère. Ils ont bombardé les forces de l'ordre avec la canne en bois typique de l'île, jeté des légumes, mis le feu aux poubelles et brisé des vitres du ministère. La police a eu le plus grand mal à empêcher ces quelques centaines d'agriculteurs d'entrer dans le ministère. Ces derniers bénéficiaient jusqu'à présent d'une série d'exemptions fiscales et d'une imposition réduite sur leurs revenus. Ils s'opposent à la réforme des retraites qui va augmenter leurs cotisations sociales et doubler leur taux d'imposition. Ils ont démontré leur détermination lors de la manifestation du 13 février dernier.
Nous ne partirons pas d'ici tant que le gouvernement n'aura pas retiré son projet. Les agriculteurs sont la colonne vertébrale de l'économie, c'est tout ce que j'ai à dire. Nous ne pouvons pas vivre, nous ne pouvons pas survivre. Nous sommes ici pour défendre une cause nationale. L'État grec s'est effondré, nous ramassons les morceaux.
La réforme des retraites élaborée par le gouvernement de gauche d'Alexis Tsipras, sous la pression des créanciers du pays, l'Union européenne et le Fonds monétaire international, entre autres, a pour objectif de garantir la survie des caisses d'assurance, mais au prix d'économies budgétaires et de l'augmentation des cotisations. Cette réforme fâche tout le pays. Les retraités y sont opposés aussi. Ils étaient dans la rue en janvier, mais également le 4 février dernier, lors de la journée de grève générale.
J'ai cotisé pour la sécurité sociale pendant 35 ans. Je ne sais pas si je recevrai une pension de retraite et on me demande maintenant de payer trois fois plus. Cette manifestation, c'est un message contre un nouveau plan de soutien, contre la réforme de la sécurité sociale et contre les choses qui détruisent le pays.
Angélique Kourounis, ces manifestations qu'on vient d'entendre à Athènes contre la réforme des retraites posent la question de la marge de manœuvre que peut avoir un gouvernement de gauche ou un autre d'ailleurs dans un pays comme la Grèce, évidemment très très endetté.
La marge de manœuvre, elle est très faible puisque c'est un chantage qui est exercé sur la Grèce comme il a été exercé sur Chypre, comme il a été exercé sur d'autres pays. Ou vous appliquez les réformes que nous décidons, ou vous n'avez, on vous donne pas les prêts dont vous avez besoin. Et moi, j'aimerais beaucoup revenir sur ce qu'a dit votre invité, Oui, il est nulle part écrit dans aucune constitution que l'Europe doit être libérale. Il est nulle part écrit que la seule politique à appliquer dans les pays européens, c'est une politique d'austérité libérale. Ça fait 5 ans qu'on applique en Grèce la politique, une politique d'austérité, une politique qui a été appliquée à la suite d'un vrai diagnostic. Il y a des choses qui n'allaient pas dans le pays, c'est tout à fait exact. Il fallait lutter contre la bureaucratie, contre les déficits, contre la corruption. Mais le médicament qu'on applique à la Grèce ne fait que creuser la crise. La dette, elle était de 120% du PIB il y a 5 ans. Elle est presque à 200% maintenant. Et on n'arrête pas de demander de réduire cette dette qui est un véritable boulet économique dans le pays. Mais on dit à la Grèce, non, non, les réformes, ça ne suffit pas quoi que fasse le gouvernement. Quel que soit le gouvernement, qu'il soit maintenant de gauche ou avant, de droite conservateur, les efforts faits par la Grèce n'étaient jamais suffisants. Et à la clé, il y avait toujours ce chantage qui était où vous faites ce que nous, on vous demande, où vous n'avez pas l'argent que vous avez besoin, et c'est la menace de l'exclusion de l'eurozone, comme maintenant, sur un autre domaine, il y a la menace de l'exclusion de Schengen. L'Europe ne peut pas marcher sur des mécanismes et des fonctionnements de chantage. Et l'Europe, encore une fois, je le répète, n'est pas automatiquement libérale. La gauche n'a pas le monopole du cœur et les libéraux n'ont pas le monopole de l'Europe.
Marie-Line Darcy, au Portugal, une situation un peu différente. Un pays là aussi très très endetté qui a subi une grande crise, on l'a évoqué. Un gouvernement là aussi de gauche, en tout cas un gouvernement socialiste soutenu par, on va dire, la gauche extrême. Mais une attitude, une politique un peu différente. Antonio Costa, le tout nouveau Premier ministre portugais, essaye d'amadouer un petit peu Bruxelles. Quand on dit Bruxelles, c'est la Commission, la Banque centrale européenne et accessoirement le FMI. Et le FMI, il est de côté au Portugal puisque Lisbonne a accès directement au marché financier.
Alors, je ne sais pas si on peut utiliser le mot amadouer. Monsieur Costa est très diplomate et je pense qu'effectivement, il ne cherche pas à faire du rentre-dedans quand il se déplace à Berlin. Il a d'ailleurs dit au début de mois, il a dit à Madame Merkel, écoutez, je ne suis pas venu vous embêter avec mon budget parce que je sais que vous avez suffisamment de préoccupations avec le vôtre. Donc, c'est une manière de dire, écoutez, moi, j'ai envie de faire autre chose. Nous essayons une autre manière de régler les problèmes. C'est vrai que tout à l'heure, à propos de Riga, votre invité disait, mais les gens étaient partie prenante parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. C'est là où il faut s'interroger, pourquoi l'Europe ne propose pas d'autres solutions. Moi j'ai un petit peu, avec le recul, cette analyse, qui n'est certainement pas puriste au niveau économique, mais qui est, l'objectif c'était d'éviter, et c'est toujours d'éviter, qu'on soit obligé de venir en aide directement à d'autres pays bien plus importants, qui mettraient effectivement tout l'édifice européen en cause. Et moi, je crois que c'est un peu ça qu'il y a derrière, parce que c'est vrai que M. Rochefort disait qu'il aurait fallu faire trois éléments très importants pour lutter contre la crise. Il a raison. Mais en 3 ans, ou 4 ans, comment c'est possible? C'est absolument impossible. Ça veut dire de demander à des pays comme le Portugal, la Lettonie, d'autres, les petits pays, je parle même pas de la Grèce, c'est un autre débat, mais les vraiment tout petits pays de l'Europe n'ont pas les moyens d'adopter un modèle nordique de l'Europe en 3 ans alors qu'ils sont confrontés à des situations inextricables et extrêmement difficiles à vivre, comme on l'explique dans le livre Visage de la crise d'ailleurs, puisque c'est ça, c'est très court, très vite, très fort, et il faut réagir très vite, très fort. L'austérité, elle est là, après elle est portée par des choix économiques, il y a encore quelques mois c'était libéral, tendance ultralibéral, aujourd'hui c'est un autre modèle, et le gouvernement de gauche et l'extrême gauche qui sont au pouvoir, tente de proposer quelque chose. Alors si c'est amadouer les Nordiques de l'Europe, ben très bien.
Luna Bergman, donc la Lettonie, elle, est sortie de cette crise avec des taux de croissance importants, autour de 5-6% à peu près, on va pas calculer à la virgule près, c'est pas très très important. Quel regard a-t-on de Riga, quand on est de Riga, sur cette crise des pays du Sud, comme dit le visage de la crise, nous gens du Sud, pauvres et feignants, pour reprendre le titre du livre de Marie-Line Darcy, d'Angélique Couronis.
Donc, en général, la population est, donc, pendant des négociations entre l'Allemagne et la Grèce, la Lettonie était dans la majorité des côtés de l'Allemagne, en estimant que la Grèce doit appliquer les demandes mises en place par la Commission européenne. Après, il y a un vrai débat aussi à l'intérieur des pays. Disons que, voilà, les intellectuels plus de gauche de Riga avaient une sympathie et un sentiment de solidarité pour les Grecs. Mais la population dans sa majorité était un peu dans l'esprit et nous avons vraiment beaucoup souffert pendant la crise. Nous avons fait tout ce qu'on nous a demandé à faire. Est-ce que maintenant les autres vont pas le faire? Est-ce qu'il faudra que la Lettonie contribue pour sauver la Grèce, etc., etc. Donc c'était une réflexion sur une situation que les gens n'arrivaient pas vraiment à comprendre.
Carrefour de l'Europe, peut-on sortir de la crise? Nous sommes avec Robert Rochefort, député européen Modem, avec Marie-Line Darcy, correspondante de RFI au Portugal, avec Angélique Couronis, journaliste grecque en ligne d'Athènes, et avec Una Bergman, lettonne, enseignante et doctorante. Il y a un pays dont nous n'avons pas beaucoup parlé jusqu'alors, c'est l'Irlande, et pour l'évoquer, nous allons faire un détour même par la rédaction de Courrier International. Bonjour Judith Sinige.
Bonjour Daniel.
L'Irlande a été l'un des premiers pays européens touchés par la crise financière qui venait des États-Unis. États-Unis. Le pays a longtemps été convalescent et puis voilà, le tigre celtique qui repart de plus belle avec une croissance de près de 7% en 2015. L'Irlande continue à être l'économie à la plus forte croissance, se réjouit The Irish Times, mais cette embellie est-elle solide? Là est la question, Judith.
C'est vrai que l'Irlande, comme vous dites, connaît la plus forte croissance de toute l'Union européenne, 6,9% exactement. Mais il est vrai aussi qu'en 2016, selon les prévisions de la Commission européenne, cette croissance devrait être un peu plus basse, de 4,5% à peu près. Les choses sont beaucoup améliorées. En ce moment, 8,6% des Irlandais sont sans emploi. Et en 7 ans, ce taux n'a jamais été aussi bas. Donc les Irlandais, évidemment, sont très contents de cette reprise. On se souvient des années d'austérité après le sauvetage des banques et le programme de soutien en 2010 de l'IMF et de l'Union européenne, FMI, pardon. Et c'est seulement en 2013 que le pays est sorti de la récession. Mais même s'il y a des nouvelles plutôt réjouissantes, il y a de plus en plus d'économistes irlandais qui lancent aujourd'hui des avertissements. Ils disent qu'une nouvelle crise, comme en 2008, pourrait arriver. On n'est pas à l'abri. Et c'est ce qu'on peut lire aussi sur le site du Courrier International, dans une revue de presse irlandaise, notamment basée sur le Irish Times et le Irish Independent, traduit en français évidemment. Et on voit dans cette revue de presse, avec tout ce qui se passe en ce moment sur les marchés financiers, avec les bourses européennes qui sont en train de plonger, la chute des valeurs bancaires, etc., une nouvelle crise financière mondiale pourrait nous arriver à nouveau. En plus, en Irlande, tout n'est pas rose. Certes, il y a la croissance, certes, le chômage est en baisse, mais il reste quand même des inégalités sociales importantes. Et on voit aussi que tout le monde ne profite pas de cette croissance. On voit que les grandes villes en profitent, notamment Dublin, Cork, Galway, etc. Mais la campagne en profite beaucoup moins.
Tout va bien a priori, mais l'économie irlandaise a conservé un certain nombre de faiblesses.
Les banques restent fragiles, notamment en ce qui concerne les créances douteuses. Et l'endettement reste élevé aussi. L'endettement de l'État, mais aussi l'endettement des entreprises et des ménages. Et il y a certains qui disent même qu'on pourrait avoir une nouvelle bulle immobilière. Et ça serait donc très grave pour les Landes. Surtout qu'il y a des chances que le nouveau gouvernement, qui sera élu le 26 février, soit instable. Donc oui, l'Irlande va mieux au niveau économique, mais il y a des voyants rouges qui se rallument.
Merci Judith, Courrier International Hebdo et CourrierInternational.com. Robert Rochefort, on ne peut pas transférer le cas de l'Irlande à toute l'Europe. L'Irlande est quand même un cas bien particulier.
Oui, pour l'Irlande est un pays qui a systématiquement joué le joker d'un pays qui voulait exploiter un avantage comparatif, comme on dit en économie, c'est-à-dire jouer à fond de quelque chose. Donc c'est la place financière, il faut bien quand même le reconnaître, la compétition fiscale, qui est quelque chose malheureusement qui existe en Europe.
J'allais évidemment y venir.
Voilà. Mais la vraie question qu'il faut se poser, c'est pourquoi on ne sort pas de la crise ? Alors qu'on applique des politiques de rigueur, on ne sort pas de la crise.
Ou en tout cas, pas partout et pas de la même façon non, et pas aussi rapidement.
Honnêtement, on n'en sort pas. On n'en sort pas assez vite. Alors, je lis les communiqués de la Commission européenne et M. Moscovici, y compris, qui dit qu'en 2016, la reprise est solide et qu'en 2017, elle sera encore plus solide. Mais elle n'est pas suffisante, notamment pour faire baisser le chômage.
De l'ordre de 1,5%.
Oui, 1,7% peut-être, 1,8% ou 1,9% en 2017. Pourquoi on n'en sort pas assez? On n'en sort pas assez parce qu'il n'y a pas assez d'investissement. On a fait deux ou trois erreurs. D'abord, on continue, et la France de ce point de vue est un exemple, on continue à penser que notre salut vient du reste du monde. Donc on croyait quelque part que l'Europe allait être entraînée dans la croissance mondiale. Et qu'est-ce qui se passe actuellement? C'est que la croissance mondiale, elle est soumise à des nouvelles difficultés comme l'épuisement par exemple du modèle chinois et des choses de cette nature auxquelles on ne s'attendait pas, la crise des matières premières, et tout ceci joue défavorablement par rapport à nous. Donc ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est que la seule institution européenne qui est à la hauteur actuellement, c'est la Banque Centrale Européenne. Elle a inondé de liquidités. Mais cette inonde, le fait de donner de l'argent a plutôt été orienté vers, à cause d'une frilosité, vers une sorte de façon de tourner en rond à l'intérieur des banques, qui d'ailleurs effectivement ont plein de dettes, qui sont des dettes pas très propres, on en a parlé il y a un instant, y compris pour l'Irlande, au lieu de faire en sorte que cette argent soit mobilisé au niveau de l'économie. Et donc on en reste uniquement avec les plans d'austérité. Mais je voudrais simplement dire un point tout à l'heure, quand votre collègue a dit que le libéralisme n'était pas la seule carte politique pour l'Europe. C'est évidemment vrai, mais l'Europe est une démocratie. D'ailleurs, l'Europe vote. Et il se trouve que, si on prend l'exemple d'un modèle anti-européen qui était peut-être celui de l'extrême-gauche, en France par exemple, il y avait des candidats, c'était les candidats de Jean-Luc Mélenchon, qui était sur la position proche. Le problème, c'est que ces électeurs ne choisissent pas ça. Quand vous regardez la carte politique de l'Europe, elle est faite avec une droite et un centre-droit qui est la principale force politique en Europe. Ensuite, vous avez une gauche qu'on va appeler une gauche de gouvernement, dont plus de la moitié de la gauche de gouvernement est une gauche qu'on appellera plutôt social-libérale. Et c'est le cas, par exemple, en Allemagne avec la grande coalition. C'est aujourd'hui le cas de la politique du Parti démocrate en Italie. Donc, il y a un équilibre politique global qui se fait par rapport à ça. Mais il est inexact de dire que l'orientation générale que prend l'Europe serait une orientation qui serait contradictoire à ce que les citoyens désignent comme choix, soit quand ils élisent leurs gouvernements nationaux et qu'en fait les 28 gouvernements se retrouvent autour de la table quand il y a le Conseil européen, soit même lorsqu'ils votent pour les eurodéputés. Au niveau des eurodéputés, bon, on a vu pour ce qui est le cas de la France, la montée du Front National qui a été quand même très importante la dernière fois.
Et d'une manière générale, la montée des partis populistes partout en Europe.
Mais en même temps, quand vous regardez au niveau du Parlement européen, ces partis-là sont minoritaires et ils n'ont pas accès aux responsabilités. Mais moi, je ne suis pas un ultralibéral. Moi, je ne pense pas que la réponse est là. Je pense que la réponse est dans le fait de dire qu'il faut plus d'Europe, plus d'investissement. Et malheureusement, oui, l'Allemagne n'a pas suffisamment joué la carte de l'investissement dans les pays en même temps qui avaient la logique de rigueur, parce que l'Allemagne, il faut être honnête, a considéré qu'elle ne pouvait pas pour l'instant faire confiance à ces gouvernements de ces petits pays qui promettaient oui, mais qui n'étaient pas vraiment sûrs de faire ce qu'il fallait derrière.
D'un mot, Robert Choix, est-ce qu'il peut y avoir une reprise significative durable en Europe qui se traduirait évidemment par une baisse significative du chômage de masse et notamment du chômage des jeunes sans un minimum de politique et de règles communes? Je pense à la politique fiscale, on a évoqué.
Non, il en faut justement.
Les pays européens, on ne peut que constater qu'ils se font une concurrence incroyable et suicidaire.
C'est suicidaire. Alors, la vraie question, malgré tout, c'est que c'est moins suicidaire qu'avant l'Europe, où on se faisait la même concurrence avec les dévaluations compétitives, vous vous en souvenez, entre la pesette, la lire, etc. Et les petits pays dont on parle tout à l'heure, la Grèce par exemple, qui est incontestablement celle qui a été la plus maltraitée. En même temps, ce que les citoyens grecs ont dit explicitement, c'est qu'ils comprenaient bien qu'il n'y avait pas d'alternative positive pour eux à quitter le bateau. Et ils se sont dit, finalement, ce sera encore pire si on quittait le bateau. Mais non, il n'y a pas d'autre réponse qu'une intégration encore plus forte. En tout cas, moi, la famille politique que je représente joue cette carte à fond. Cette intégration, elle passe par une convergence fiscale, une convergence sociale aussi, sur un certain nombre de sujets.
C'est-à-dire arrêtons le dumping, des salaires minimums, par exemple.
Arrêtons le dumping social, y compris en Allemagne aujourd'hui, avec, y compris dans l'agriculture, ce qui n'est pas sans rapport avec la crise de l'agriculture qu'on connaît aujourd'hui en France. Et puis, il faut un ministre de l'économie de la zone euro. Il ne faut pas uniquement un banquier central, même si, encore une fois, monsieur Mario Draghi, honnêtement, il est à la hauteur des événements. Il a su, d'ailleurs, transcender, comment dire, son rôle d'être uniquement un orthodoxe de la lutte contre l'inflation. Il a joué quelque chose qui était favorable à la croissance, mais à lui tout seul, il ne peut pas tout faire.
Angélique Cournis, j'imagine, je suis sûr que vous avez envie de réagir.
Rochefort a tout à fait raison. C'est vrai qu'il y a une démocratie en Europe et c'est vrai que les peuples s'expriment, mais en bout de ligne, l'expression de leur vote n'est pas représentée, n'est pas appliquée. Et les Grecs, deux fois, ont voté, non pas pour sortir du bateau, parce qu'effectivement, ils ont raison, les Grecs ne veulent pas sortir de l'Europe. Mais les Grecs ne veulent pas de cette Europe-là. Les Grecs voulaient, via le Syriza, ils avaient l'illusion qu'ils pouvaient réformer l'Europe de l'intérieur, faire une Europe à visage humain.
Je crois que vous avez employé le bon mot, les Grecs avaient l'illusion.
Ils pensaient que c'était possible, ils pensaient que leur vote allait être pris en compte. Alexis Tsipras pensait honnêtement qu'il pouvait réformer l'Europe de l'intérieur. Tant que le Syriza disait, nous, l'Europe, on n'en veut pas, on veut en sortir, il faisait 4%.
Mais oui,
quand le Syriza a dit, nous restons dans l'Europe, mais nous allons réformer l'Europe, nous allons faire une Europe plus sociale, à ce moment-là, il a eu 32% aux élections.
Oui,
c'est
ça
qu'il ne faut pas oublier.
Mais Alexis Tsipras est quand même hyper minoritaire en Europe, au sein des 28 pays.
Mais on a voté à gauche aussi au Portugal. On a des forces de gauche qui montent en Espagne, on a des forces de gauche qui montent en Allemagne, et de l'autre côté, il y a des eurosceptiques qui montent encore de façon plus importante que la gauche. Donc est-ce que c'est vraiment cette Europe-là que l'on veut? Est-ce que l'on ne peut pas se rendre compte que oui, il y a une crise, oui, il faut appliquer des réformes, oui, il faut réformer, lutter contre la corruption et la bureaucratie, mais les réformes que l'on fait ne sont pas celles qu'il faut. C'est pour ça qu'on ne sort pas de la crise. On ne se donne pas les moyens de sortir de la crise. On reste dans un programme qui est plus un programme idéologique qu'autre chose, qui est, on n'a plus que la rigueur. Et quand ça ne suffit pas, on en met encore un tour de vis. En Grèce, c'est le troisième plan d'austérité qui est appliqué, avec les résultats que l'on connaît. Donc peut-être qu'au bout d'un moment, la Grèce est dans sa septième année de récession, moins 1,5% encore cette année. Est-ce qu'il ne faut pas réfléchir à une autre politique pour faire vraiment des réformes structurelles dans les pays? Et aussi, là, je rejoins M. Rochefort, faire une réelle politique d'investissement. Mais quand on dit investissement, c'est investissement gagnant-gagnant. tant pour l'investisseur que le pays qui reçoit ses investissements. Pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, on brade en Grèce.
Alors la Grèce est évidemment un cas tout à fait particulier en Europe. Alors, est-ce que la crise est devant nous? Est-ce qu'une nouvelle crise est devant nous, Robert Rochefort? On peut constater que le pétrole est peu cher en ce moment, que les crédits est presque gratuit, hein, j'exagère mais presque, et ça ne décolle pas vraiment avec, dans la zone euro, des taux de croissance d'1,5%, c'est-à-dire ce n'est pas suffisant pour relancer la machine, pour faire diminuer le chômage. Alors lorsque le pétrole va réaugmenter, lorsque le crédit finira par être un peu plus cher, est-ce qu'on va vers de nouvelles bulles? Est-ce qu'on va vers de nouvelles illusions? Est-ce qu'on va vers une nouvelle crise?
Attendez, le monde dans lequel nous sommes est un monde devenu totalement interconnecté. C'est ça la mondialisation. Prenez un exemple simple qu'on vit actuellement. L'Algérie n'a plus les recettes qu'elle avait avant avec le prix du pétrole, compte tenu de l'effondrement du prix du pétrole. Moyennant quoi, l'Algérie ne peut plus acheter massivement, comme elle le faisait avec cette rentrée de la manne pétrolière, des produits industriels et encore plus agroalimentaires à l'Europe et en particulier à la France. Moyennant quoi, ça aggrave la crise agricole en Europe et en France. Et je ne parle même pas de ce qui se passe avec la Russie au niveau donc de l'arrêt des importations de produits agroalimentaires.
Pour d'autres raisons.
Pour d'autres raisons. Ce que je veux dire, c'est que le monde est totalement interconnecté et ce que l'on appelait il y a quelques années l'effet papillon, c'est-à-dire un dérèglement local qui génère une crise mondiale, c'est absolument la réalité dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Il ne faut pas se tromper. À chaque fois qu'il y aura une crise, qu'elle soit internationale comme en Syrie, qu'elle puisse demain résulter de la Corée, qu'elle résulte de différents endroits, on aura ce genre de choses. La question qui se pose, c'est du coup, comment nous réagissons-nous? Et nous ne pouvons réagir qu'en étant forts et unis ensemble. Si l'Europe est puissante et unie, elle peut effectivement influer sur le cours des choses au niveau mondial. Si elle n'est pas forte et si elle n'est pas unie, elle n'influencera rien du tout. Peut-être que M. Tsipras, par exemple, n'arrive pas à convaincre de ses thèses en Europe. Mais dites-vous bien que l'équivalent de M. Tsipras et l'Europe au niveau mondial, c'est Monsieur Hollande au niveau mondial. Monsieur Hollande, il n'arrive pas non plus à influencer la planète, parce que Monsieur Hollande, il est simplement à la tête d'un pays que nous considérons comme un grand pays au niveau de l'Europe, mais qui est un petit pays au niveau du monde. Si demain il y a effectivement, nous c'est ce que nous pensons, quelqu'un qui représente l'Europe avec une légitimité et qui sera, qu'on le veuille ou non, au centre de gravité politique des forces politiques en Europe, eh bien nous pourrons infléchir, nous pourrons faire des choses, mais ne nous trompons pas, le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde dans lequel, oui, les crises peuvent survenir à n'importe quel moment, mais pour les contrer, eh ben, il faut des gens qui soient des gens qui représentent des forces politiques importantes. Par exemple, quand Monsieur Obama décide d'un seul coup de se retirer relativement des questions du Moyen-Orient et qu'il laisse la Russie, comment dire, intervenir, il peut le faire parce qu'il est Monsieur Obama et qu'il est le président des États-Unis. Et vous voyez les conséquences que ça a. Quand est-ce que nous aurons en Europe quelqu'un qui aura le pouvoir politique de Monsieur Obama, alors que sur le plan démographique, sur le plan intellectuel, sur le plan scientifique, sur le plan également économique, nous comptons plus que Monsieur Obama. Et vous me permettrez une seconde d'ailleurs d'envoyer la balle, non pas à notre ami Letton qui est ici, mais aux nouveaux pays qui sont entrants, et y compris aux pays baltes, mais aussi aux Tchèques, etc. J'aimerais qu'ils regardent plus vers la construction d'une Europe avec ce système de valeurs européens que d'être attiré par le modèle américain qui leur apparaît bien souvent, qui leur est apparu au cours des années récentes comme un modèle qui était un modèle qui enfin tournait le dos au communisme, tournait le dos au vieux modèle soviétique dont ils avaient souffert en ayant le joug pendant un certain temps. L'une des difficultés aussi que nous avons à construire une unité politique en Europe, c'est que c'est pas uniquement une question de gens de droite ou de gauche ou ici ou là, c'est aussi une question géopolitique dans laquelle, entre le Portugal et la Grèce qui sont dans le sud de l'Europe, et les pays qui sont rentrés dans les derniers et qui sont avec un autre univers géopolitique, souvent les attentes ne sont pas les mêmes. Et je peux vous dire que au niveau de ce qu'on pourrait appeler, par exemple, par rapport à la discussion qu'on a eue tout à l'heure, les poussées un peu ultralibérales que l'on peut connaître en Europe, elles ne proviennent pas forcément des partis du noyau dur de l'Europe. Elles proviennent souvent des pays qui sont rentrés récemment parce qu'ils voient leur univers, ils voient les choses autrement et peut-être pas encore assez avec tout l'héritage historique et culturel, et y compris politique, qui est celui de l'Europe.
Évidemment, l'Europe unie dans la diversité, c'est facile à dire, plus difficile, c'est un combat. Un tout petit mot, Marlene Darcy, le Portugal a longtemps regardé vers l'Atlantique, depuis son adhésion à l'Union Européenne, elle regarde évidemment, elle est très intégrée à l'Union Européenne. Comment se sent le Portugal en Europe d'un mot?
Bah, je crois qu'il faut en revenir à ce que M. Rochefort vient de dire, à savoir l'Union européenne fonctionnera si elle est très unie, si c'est ce modèle, et j'y crois personnellement, mais il ne faut pas laisser tomber des pays comme le Portugal, parce que justement ils ont fait des choix très atlantiques, ils sont devenus très européens, ils en ont bien profité, M. Rochefort l'a dit aussi. Maintenant, c'est quoi cette Europe unie si on laisse tomber des petits pays du Sud, ces gens qui sont un peu pauvres et fainéants, comme on le dit dans le livre, dont je conseille la lecture.
Chez Buchet-Chastel,
avec aussi des collègues espagnoles et italiennes. Nous sommes quatre à avoir fait ce livre. Et je pense qu'effectivement, ces pays du sud de l'Europe sont peut-être à la limite plus proches des nouveaux entrants, mais en même temps, c'est tout un bloc qui est en train de se construire et qui peut très très bien dire un jour, fortement, d'une manière ou d'une autre, ce sera peut-être pas forcément pacifique, que c'est fini cette Europe-là, parce que justement l'Europe unie, elle n'est pas faite. Alors évidemment, bien sûr, après il y a le côté politique, les politiques font leur travail et c'est bien normal, mais moi je pense qu'effectivement, si on ne s'arrête pas 5 minutes pour penser à quelle Europe on veut, on va dans le mur.
Visage de la crise, c'est le titre du livre que vous avez coécrit, Marlene Darcy, avec trois autres consoeurs. Merci à toutes les quatre d'avoir été au Carrefour de l'Europe, réalisation Guillaume Munier. Pour écouter cette émission RFI.fr ou encore mieux les applis mobiles, mais gratuite de RFI. Plus d'infos sur nos invités via la page Carrefour de l'Europe RFI, sans oublier évidemment les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Pour rester en contact, Daniel Desesquels, ou que vous soyez à Lisbonne, Athènes, Riga, Dublin ou ailleurs dans le monde,